Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. La piste tournait deux fois, puis se perdait derrière l'horizon d'un éboulis de pierres mortes. Palestine Norwood paraissait piquée sur son cheval. Un long manteau d'officier de marine longeait son corps jusqu'à la tige de ses bottes. Son buste était si escrampé qu'il dansait au rythme imprévisible de sa monture. Soudain, un serpent à sonnette traversa rapidement la route. À la vue du reptile, l'étalon noir broncha. Les deux mains posées à plat sur les rênes, le cavalier oscilla, puis retrouva miraculeusement son équilibre. Son visage conserva une expression lisse. À part les yeux ouverts, on pouvait croire que l'homme était mort sous la poussière du chemin. Mais il tenait en selle. Il refusait l'apparence de son trépas. C'était sa façon de vivre. Il avançait. Ses doigts étaient longs et maigres, ses ongles pâles, glacés par le petit vent du soir. Il s'éloignait comme une ombre pataude à contre-jour du ciel congestionné par le soleil déclinant. Au bout de quelques milles, Palestine Northwood se haussa imperceptiblement sur ses étriers. Ses yeux, habitués à fouiller l'immensité marine, suivirent la trajectoire d'une flèche de poudre rouge courant sur le sol de la vallée. En observant son tourbillon sans cesse renouvelé par le galop des chevaux de traîne, il apprit que la diligence de Mamou se hâtait vers sa proche destination. Il en déduisit qu'à 30 000 plus à l'est, en piquant droit sur l'écran de brume qui embuait le début des vallées, il trouverait le territoire de Bayou Népiqué, où se perdait dans le dédale des eaux mêlées la trace de celui qu'il cherchait depuis si longtemps. Palestine Northwood avait repris espoir 2 semaines auparavant. En entendant un ancien marron se vanter du grand tirage qu'il y avait eu à Bayou Saint-James. Il avait fait parler l'anigraille au sujet de ce bon diablon qui protégeait les carbots contre la vigilance. Il avait payé sa rincée de rhum. Les langues s'étaient dénouées. Dans leur broken French, les couleurs racontaient les exploits du pistolero aux cheveux d'ange. Toutes les descriptions concordaient pour faire de lui un prodigieux tireur à l'arme de poing. Après l'enfer des terres jaunâtres et le couloir désolé des canyons rongés par le vent, le harponneur de Nantucket sentait ressurgir en lui son âme d'écorcheur. L'image fugitive de l'océan traversait sa mémoire. Il était secrètement persuadé qu'il touchait au but. Qu'après tous ces mois d'incertitude et de stérile chevauchée, il venait de croiser à nouveau la route du seul être au monde qui lui eût jamais permis de comparer le feu à l'eau, la passion à la haine et l'homme à la baleine. Persuadé qu'il ne rentrerait pas les cales vides, il était allé secouer les puces à Nonc-Rosémont pour tenter d'en savoir davantage. Le vieux nègre avait dit que le docteur des Noirs était capable d'emporter l'œil d'une mouche sans même lui ôter ses ailes. Il se signait en parlant de celui dont le cheval enjambait les montagnes. Autant de réponses qui empestaient l'huile, qui réveillait les eaux du Pacifique. À l'approche d'un nouvel affrontement, un mélange d'allégresse et d'appréhension secrète commençait à empoisonner le sang du chasseur de primes. Sans cesse, il poignait son six coups pour s'assurer de sa rapidité à dégainer. Avant de s'endormir quand venait la nuit sourde qui seule donne des ailes, le bossu de Nantucket repensait à sa jeunesse. Il était emporté par un songe. Tapi dans l'obscurité mousseuse de la mer, la masse puissante de sa mortelle ennemie, la baleine, prenait brusquement l'aspect d'un taureau marin. Et le dormeur agité de soubresauts confondait la violence de son assaut avec celle du grand bronque de Crowley, surgi à l'improviste du couvert d'un défilé. Au tout dernier moment, pour esquiver la charge, l'étalon de Palestine Northwood, son garion noir, se faisait chaloupe d'Oris, équipé pour la course au grand cétacé. En place de revolver, le bossu tenait en ses poings crispés la hampe d'un harpon. À la vue du javelot à double barbillon, la peau de farouche ferraille Crowley devenait lisse. Elle se doublait d'une épaisse couche de graisse qui le mettait à l'abri du fer. Son œil couleur d'ardoise s'adaptait à la vision sous-marine. Ses narines trouvaient leur place sur le sommet de son crâne. Il cherchait refuge dans la fosse des eaux profondes. Et un cri de fureur barbare sortait par ses évents. Le rêveur, tiré brusquement du sommeil, avait le front mouillé de transpiration. Il conservait en son arrière-bouche la saveur de la mort. Remontait alors à son esprit égaré la résonance de cette étrange réponse qu'il avait faite autrefois au capitaine Fix sur son grabat d'hôpital. C'était en un temps où les médecins donnaient aux marins douloureusement brisés dans ses os une petite quinzaine de jours à survivre. L'officier, venu réconforter son homme d'équipage estropié par la mer, l'avait trouvé occupé à manipuler une arme. « À quoi te sert, Palestine, d'apprendre à jouer du revolver, puisque tu vas mourir ?»« À jouer du revolver avant de mourir ?» avait répondu l'agonisant. Et brandissant devant son regard halluciné l'arme qu'il soulevait à grand-peine, il vit clairement s'approcher son ennemi du moment. Madame Couleur Cendre s'arrêta à quelques pas du chevet du marin. Elle lui sourit tristement. Ils étaient liés comme un couple. Ils s'étaient si souvent fréquentés. On dit que dans la vie en commun, c'est le plus faible qui use le plus fort. Et ainsi en fut-il avec Palestine Northwood. À l'heure de la cueillette, l'homme de Nantucket découragea la bûchailleuse. Il lui fallut trouver par la suite tant de vaillance pour remettre son corps en état de marche, déployer tant de rudesse envers lui-même pour discerner l'éternel dans la patience du quotidien. Il avait réappris à se mouvoir avec l'aide de crosses de harpons calées sous les aisselles, jour après jour, en silence, en grimace, en chemise. Il arpentait la campagne. Il connaissait tous les chants des oiseaux. Plus tard, lorsqu'il fut capable de se déplacer sans l'aide de ses cannes, il constata avec amertume qu'une paralysante incapacité à se choisir un nouveau destin l'empêchait de profiter de sa recouvrance miraculeuse. Une lassitude, une inappétence, un dégoût inexplicable lui interdisait de se fixer le moindre but. « Je sais tirer, se révoltait-il. Je tiens à peu près sur mes jambes, je suis carcassé, il est vrai, d'une bosse, mais j'ai 1000 souvenirs pour accommoder mes rêves. Alors si Dieu veut bien encore de moi, malgré l'estron pur que j'ai prise par derrière, où donc, se lamentait-il, est le ressort supplémentaire qui me manque ?» À force de chercher la réponse autour de lui, Il s'aperçut que la moquerie des enfants l'atteignait plus que n'importe quoi.
« Oh, le vieux croche ! Oh, l'escarbé !»
Les gosses lui jetaient des pierres. Pour s'élever au-dessus d'eux, il apprit à tenir sur un cheval. Il se mit en route vers le sud, Pennsylvanie, Virginie, Kentucky. Dans chaque village traversé, l'infirme était raccompagné sous les colubets, les vexations, parfois les sévices. À force de qui vive, rien de surprenant à ce que son caractère s'altéra dangereusement. Son humeur s'embruma d'une préoccupation constante. Elle céda le pas à des sautes imprévisibles. Devant le jaillissement inattendu de cette violence, ceux qui, sur son chemin, tentaient parfois de lui manifester quelque compassion, finissaient immanquablement par se détourner de sa fréquentation. Il irradiait trop de rancœur. 3 cicatrices blanches. 3 cicatrices pour une fourchette enfoncée dans son bras. Palestine, n'oubliez pas de quoi les enfants sont capables. Surtout les enfants blonds. Ils étaient les bourreaux de sa laideur. Un jour, il était entré se rafraîchir dans un salon. Il était tombé sur un homme jeune et sûr de sa force, un loup d'une éclatante beauté qui riait au bras d'une femme. La gaine de son revolver était nouée assez bas sur sa jambe. Leurs regards s'étaient croisés à peine. Cherchant dans la provocation un ultime remède à son infortune, Palestine Northwood l'avait défié. Il vit s'arrêter sur lui des yeux brillants, presque lumineux. Il n'eut point le temps de répondre à leur fulgurance. Déjà, la violence accourait sur le visage de l'autre. Ils avaient dégainé leurs âmes en même temps. La mort était dans les deux camps. Elle ne prenait pas parti. Ni l'un ni l'autre n'avait tiré. En ressortant de là, malmené par le pas trébuchant de son cheval qui l'emportait vers le nord, Northwood avait trouvé sa nouvelle raison d'être. Il pouvait partir, maintenant. Et même, il devait partir. Il était persuadé qu'aussi longtemps qu'il galoperait, qu'autant de ravins et de terres humides, il mettrait entre lui et le cavalier blond, le destin s'acharnerait quand même à les réunir. Grimpé sur la hauteur d'une colline qui dominait l'échiquier des champs et des bois, il se retourna vers la rivière. À 5 ou 6 milles devant lui, il apercevait la trace bleutée des fumées de la petite ville qu'il venait de quitter. D'abord, il ne bougea pas, ne pensant à rien d'autre qu'à lui. Sa respiration était ample et régulière. Puis, alors qu'il se tenait ainsi parfaitement immobile, les mains jointes sur le pommeau de sa selle, pour la première fois depuis son infirmité, il sut qu'il avait inventé le silence entre deux êtres qui se haïssent. Le silence. Cette boîte pleine.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Un grand pas vers le bon Dieu, Jean Vautrin. Ce soir encore, un calme glacial avait envahi Palestine Northwood. Il s'approchait de son gibier. Il le flairait sans hâte. Il avait chevauché jusqu'à ce que la terre bleue eût fini de boire. Comme la nuit recouvrait la piste, il provoqua un écart de son cheval et se détourna de la sente. Il s'enfonça dans les ténèbres humides et mit pied à terre pour se restaurer. Il planta à l'abri d'un rocher le trépied de son feu, s'accroupit près de la flamme et parut s'engourdir. Au bout d'un moment, il sortit son coutelas aux manches sculptées dans un os de cachalot, une merveille gravée avec une aiguille à voile, et trancha une portion de lard. C'était tout le régal qu'il s'accordait. Lorsqu'il eut terminé son repas, il resta plongé dans l'obscurité progressive qui annihilait tout espoir. Son immobilité était parfaite. Ses yeux ternis par la solitude se fermèrent à demi. Il s'apprêtait à aborder une fois de plus cet état comateux précédant le soleil. Alors que sa conscience allait s'éteindre, un frisson de refus parcourut ses flancs torves, ondula jusqu'à la naissance de sa nuque soudée. Il rouvrit les paupières et posa l'étrangeté de son regard sur les bûches incandescentes. Parfois, sa chasteté forcée le transformait en serviteur frustre de ses propres envies. Harassé par 8 heures de chevauchée, il achevait de tuer son corps de bête brute dans un grand froissement de ses mains endurcies. Nul amour de soi-même ne le traversait alors, juste l'impérieux besoin de fabriquer le plus de faiblesses possible, d'étouffer ses forces sous sa couverture et de sombrer dans le néant. À ses pieds, le feu s'éteignait. La nuit également. Il connaissait le chant des oiseaux. Au milieu du mois d'octobre, le maïs d'arrière-saison était moissonné. Hérissé de gerbes, la terre encore chaude donna asile aux compagnies de caille. Embaumé par les fragrances de sassafras, les fins d'après-midi s'enlisèrent dans l'étirement d'une somnolence ensoleillée. Le long des digues et au bord des champs, des fleurs continuèrent à éclore. Elles le faisaient en toute saison, amaryllis, hélénium, anémone ou vernonia. Elles marièrent comme d'habitude leurs couleurs neuves, mêlant leur renouveau éternel au déclin inéluctable du gommier, de l'icorie et de l'érable, pavoisés depuis déjà plus de 2 semaines aux couleurs rouge et or de leur désenchantement progressif. En même temps, les ombres s'allongèrent sur le fil des eaux, confirmant la mousse espagnole dans son rôle de magicienne, tandis qu'un léger brouillard embuait la lisière des bois et le fond des vasières d'une mélancolie languissante. Azeline vivait son premier chagrin d'amour. Son fiancé des bois ne venait plus au rendez-vous de sa grotte de verdure. Plusieurs fois de suite, elle s'était postée en vain, le nez dans l'herbe, attendant le cœur battant qu'il paraisse à la porte de sa cabane. Pas de fumée, pour rassurer la jeune fille sur sa présence. Pas de chien gambadant dans les parages. Pas de craquement pour annoncer le retour du chasseur dans la clairière. L'endroit, privé de signes, semblait abandonné par la vie. Au bout de 3 longs jours d'incertitude, elle fut incapable de résister davantage à la tentation de fouiller le camp. À pas glissés, elle s'aventura donc jusqu'à la cahute, commença par en faire prudemment le tour, puis, ayant risqué un regard par l'entrebâillure de la porte, osa franchir le seuil de la tanière où elle espérait tant trouver les traces de son bien-aimé. Dès que ses yeux se furent habitués à la pénombre, elle se rendit compte que la place était nette, que son archange avait décampé. Plus de nourriture, plus de bol, point de baquet de vaisselle, même une cuillère, pas de vêtements ou d'huile pour la lampe, à peine quelques filaments de mousse espagnole éparpillés sur le bas-flanc trahissaient-ils le déménagement du matelas de fortune et gravé sur l'une des poutres, une série d'encoches pratiquées au couteau tenait la comptabilité des jours enfuis, 40 cicatrices. Azeline les compta patiemment avant d'éclater en sanglots. Les yeux brouillés de larmes, étouffée à force d'être vaincue par le doute, elle était sur le point d'écourter sa visite lorsque sa hanche heurta le coin de la table à 3 pattes. Instinctivement, elle porta vers l'avant ses 2 bras tendus afin de restaurer l'équilibre du meuble chancelant, celui-là même qu'en 2 après-midi de bonheur elle avait vu fabriquer devant elle. C'est alors qu'elle découvrit la montre. Posée en évidence au milieu du plateau, elle ne pouvait constituer un oubli, plutôt un appel, autant dire un message. À moins qu'il ne s'agît plus cruellement d'un cadeau d'adieu. Mais quelle que fût la raison ou la teneur de cette annonce, s'effraya Azeline, le fait qu'elle lui fût destinée ne signifiait-il pas que celui qu'elle avait coutume d'aller visiter avait fini par débusquer sa présence, qu'il s'en accommodait, mieux, qu'il en prenait avantage pour la tourner en ridicule, ou qu'il utilisait sa naïve verdeur de jeune oiselle pour modeler à la convenance, à la hauteur de ses propres vices, l'étalage de ses émois les plus secrets. Et que pour satisfaire à son amusement personnel, le bel étranger avait tout bonnement cherché à précipiter la pucelle dans les tourments du corps et de l'esprit. Une vague de réflexions contradictoires assaillit la jeune fille, et bien sûr la colère et l'amertume étaient les plus fortes. Azeline se sentait gravement humiliée d'avoir été manœuvrée de la sorte. En même temps, alors qu'elle était tentée de donner libre cours à son ressentiment, se dessinait confusément en elle un autre courant, un ressac qui jouait en faveur de l'attitude de son cher manipulateur. Car enfin, jamais l'étranger n'avait ébauché un geste déplacé à son égard. Azeline enfermait de lui une image intacte. Et si, dans le déroulement de la mauvaise farce qui les avait réunis, elle reconnaissait volontiers avoir tenu le rôle de la dinde, elle se consolait à mesure en pensant qu'elle y faisait aussi figure d'inspiratrice. Du coup, bien qu'elle se reprochât tant d'ingénuité, elle fut secrètement flattée qu'un homme d'une certaine expérience eût éprouvé le besoin de la visiter, de sonder le tumulte de ses sentiments et, somme toute, de lui prêter l'importance d'une femme qu'elle n'était point encore. Azeline serra le précieux talisman sur son cœur cassé et courut cacher sa peine à la maison. Elle sanglota 3 nuits, apparaissant au lever avec le visage gaufré par les larmes. Basel la regardait par en dessous et ne posait pas de questions. Son mari le lui avait interdit. Elle s'échinait sur son ouvrage. La petite ne s'intéressait plus au courant de la vie. Elle se projetait dans le vague. Elle avait les doigts gourds, les pensées courtes. Et bien que son dade ne demandât aucune justification à la rougeur de ses traits infiltrés, Elle jugea bon, pour faire accroire à la vérité de sa gonflure de paupières, de se moucher sans arrêt, sous prétexte d'un mauvais rhume de courant d'air. Edius la guignait. Il n'était pas sa dupe, ne pipait mot quand même, la laissa retourner sur les lieux du camp. Azeline pénétra à nouveau dans la cabane. Elle scruta chaque pouce du sanctuaire où gagnait la moisissure. Elle se serait néée dans la rivière si, après avoir scrupuleusement recompté les incisions faites au couteau dans le bois de la poutre, elle n'avait découvert 4 encoches supplémentaires. Pas assurée de sa trouvaille, elle revint le lendemain et trouva une nouvelle entaille, dont la lèvre était blanche. Dès lors, certaine que son bel amour vivait quelque part à l'abri des proches parages et venait chaque nuit lui témoigner sa présence, Azeline reprit espoir. Sans doute le fugitif était-il contraint par ses poursuivants de se terrer plus profond dans les mèches, et pour montrer à son amoureux qu'elle l'avait interprété ses signes, elle déposa sur la table la corolle fraîchement cueillie d'un beau nénuphar blanc. Le lendemain, la fleur avait disparu, remplacée par une orchidée. À l'entaille suivante, la petite déposa un bocal de navets de cornichons, aussi des oreilles de cochon, une sorte de beignet frit en forme d'oreille de porc qu'elle cuisinait fort bien. En réponse à ses friandises, elle obtint une véritable ovation qui avait pris la majesté d'une gerbe de fleurs des champs. Et ainsi de suite. Un tendre dialogue s'instaura de nouveau entre eux, prolongé pour Azeline le soir venu par le tic-tac de la montre de Crowley. Étendue sur sa couche, elle écoutait son mécanisme têtu battre à son oreille comme une promesse de voyage. Ciselée sur le dos du boîtier, une locomotive enrobée de fumée sillonnait la prairie, et doucement, gagnée par l'abandon d'un sommeil lourd, la fille d'Edius Raquin sentait pousser en elle les racines de son amour. 25 entailles sculptèrent ainsi les jours. Puis le matelas de mousse espagnole rejoignit le creux du bas-flanc. Le lendemain, la tonne de bois cerclée était revenue à l'angle de la cabane pour recueillir la pluie de la gouttière. À ces signes avant-coureurs, Azeline sut reconnaître que le retour de farouche ferraille Cromley était proche, et elle retrouva son rire clair. Ainsi, l'arbre conserve-t-il son espoir ? Une fois coupé, il peut renaître encore. Dès qu'il flaire l'eau, il bourgeonne. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.